chers frères et sœurs, hier soir, j'ai essayé de donner un survol de toute l'histoire du peuple d'Israël. Depuis l'Exode jusqu'au millénium, jusqu'au retour de Christ en gloire. Et je crois, nous avons réalisé que l'histoire d'Israël est l'histoire du temple. Et on peut aussi dire, l'histoire du temple, c'est l'histoire d'Israël. Effectivement, on peut diviser l'histoire d'Israël en deux périodes du temple. Nous avons eu d'abord la période du tabernacle. Ensuite, la période du premier temple, temple de Salomon. Ensuite, la période sans temple, en exil à Babylone. Ensuite, la période A, du deuxième temple, donc le temple en simplicité. Depuis 20 avant Jésus-Christ, la période B du deuxième temple, le temple en gloire, élargie. Et voilà, à l'an 70 après Jésus-Christ, destruction du deuxième temple. Et nous avons là la période sans temple, qui dure jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons vu hier soir que nous sommes dans une période de transition où on se prépare pour le troisième temple. Et nous aurons une période A du troisième temple en simplicité, ce sera aussi la période de la grande tribulation, et finalement le retour de Christ en gloire, et le Messie, selon Zacharie 6, bâtira le temple, et le Seigneur élargira le troisième temple en le plan d'Ézéchiel. Le plan d'Ézéchiel prévoit encore une cour extérieure d'1,5 km sur 1,5 km. Et ce sera le temple dans la plus grande gloire de toutes les temps, ce sera le temple du millénium. Et voilà, nous avons donc la période P du troisième temps. Ce matin, nous allons nous occuper du deuxième temps, et en particulier la période du temple à l'époque. Donc, je vous invite de faire un voyage à Jérusalem avec moi. Et ici, nous avons un plan de Jérusalem à l'an 30 pour notre orientation. Et vous voyez à première vue que le temple, l'esplanade du temple, dominait toute l'image de la ville. Un dixième de la surface était occupée par le temple. Donc, les 144 000 mètres carrés représentaient le plus grand sanctuaire à l'époque du monde. Et on pourrait mettre toutes les anciennes cathédrales d'Angleterre sur cette esplanade et on aurait encore de la place. Donc c'était magnifique ce qu'on avait à l'époque. Et c'était exactement l'époque où le Seigneur Jésus, le Messie, est venu, comme Malachie a dit, il viendra vers son temps. Vous voyez ici à l'est, nous avons le mont des Oliviers, entre deux, la vallée du Cédron. Ici au nord, on a les bassins de Bethesda, Jean 5. Ici à l'ouest, vous avez la carrière, cette ancienne carrière, Golgotha, où le Seigneur a été crucifié en dehors de la porte du jardin. Ici, vous avez le prétoire des Romains, la place de Pilate. Ici, le palais d'Hérode, de cet Hérode qui a vécu à l'époque de la crucifixion. Au sud ici, vous avez Siloé, donc le bassin de Siloé. Voilà, quelques points importants pour nous orienter. Voilà le deuxième temple dans sa gloire à l'époque des évangiles. Pourquoi nous occuper d'un sanctuaire juif comme chrétien? Eh bien, nous avons plusieurs raisons. D'abord, le Seigneur lui-même aimait le temple. Il a appelé la maison de mon Père, Jean 2. Et ce que le Seigneur aime, ceux qui le suivent aiment aussi. Mais en plus, le Seigneur, le soir où les ombres du calvaire étaient déjà tombées sur le Seigneur, il a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et là, on réalise tout de suite qu'il s'agit plus du temple à Jérusalem, comme en Jean 2, mais il s'agit du temple originel au ciel. N'est-ce pas? Apocalypse 11-19 le dit clairement, Jean vit le temple de Dieu dans le ciel. Donc il y a un temple originel dans le ciel, duquel le temple à Jérusalem était simplement une copie. Et voilà, le Seigneur disant, dans la maison du Père, de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et il a promis aux disciples d'y aller pour préparer des demeures, pour revenir et prendre les croyants auprès de lui. Donc nous avons ici l'espérance chrétienne. Donc connaître le deuxième temple, c'est mieux connaître l'espérance chrétienne. Mais sur un autre niveau, nous savons exactement que le Seigneur, étant dans le temple, Jean 2, il a dit, détruisez ce temple, et dans 3 jours, je le rebâtirai. Et là, il ne parlait pas du deuxième temple, mais étant dans le deuxième temple, mais il parlait du temple de son corps. Donc, le Messie est le temple de Dieu, et le Dieu trinitaire s'est révélé en sa personne. Donc, le deuxième temple préfigure, symbolise la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, connaître le deuxième temple aide à mieux connaître le Sauveur, le Messie. Sur un autre niveau encore, on peut appliquer le deuxième temple à l'Église. Car l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 3, verset 13, Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, en parlant de l'Église à Corinthe, nous réalisons que le deuxième temple représente l'Église. Connaître le deuxième temple aide à mieux connaître les plans de Dieu quant à l'Assemblée de Dieu, quant à l'Église de Dieu. En plus, sur un autre niveau, 1 Corinthiens 6, 19 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Et voilà, nous réalisons que le temple de Dieu représente chaque individu qui est sauvé par la foi. Donc, vous voyez, sur plusieurs niveaux, on peut se rapprocher du deuxième temple et nous aurons donc une belle illustration qui nous aide à vivre l'époque des évangiles, mais en plus à tracer les dessins, les plans de Dieu quant à des sujets basiques de la foi. Mais d'abord, je vous donne simplement un survol. Voilà le temple dans toute sa grandeur. Au centre, il y a le temple proprement dit. Vous voyez, couvert d'or. Et là où il n'est pas couvert d'or, c'est du marbre blanc. Alors, une hauteur de 52 mètres et demi, ça représente un immeuble de 17 étages aujourd'hui. Vous voyez, entouré par des cours intérieures. Et tout le temple est entouré par des colonnades, par des portiques. Et vous voyez que le portique au sud était le plus merveilleux. C'était le portique royal, une basilique, donc une portique royale. Et là, au nord-ouest, vous avez la forteresse d'Antonia. C'était une chose très grave pour les Juifs, parce que là, il y avait toujours des légionnaires qui ont contrôlé la place du temple. Et s'il y avait une révolte ou quelque chose comme une révolte, ils sont intervenus. Donc cela rappelait toujours les Juifs, malgré la majesté de Jérusalem et du Temple à l'époque, ils étaient sous une domination lourde étrangère. Vous avez ici le mur est avec la porte de l'est. Il se trouve exactement là, au même emplacement, comme on trouve aujourd'hui la porte dorée, la porte d'or qui est barrée, on la verra. Vous voyez, à l'époque il y avait encore une muraille de la ville de Jérusalem, juste en parallèle avec le mur du temple. Et là, cette porte, ici, c'est la porte de Mifka, que vous connaissez peut-être de Néhémie 3. On en parlera, de la signification de tout ça. Mais il faut avoir une vue générale. Et ici au sud, était l'entrée générale pour le peuple. Quand le peuple allait au temple, on montait normalement au sud par la belle porte. Voilà un survol de cet emplacement aujourd'hui. Vous voyez, c'est exactement ça, l'emplacement des 144 000 mètres carrés. Aujourd'hui, il y a là où il y avait le temple proprement dit, la mosquée d'Omar, le dôme du roc. Et au sud, où il y avait la basilique, le portique royal, il y a maintenant la mosquée El-Aqsa. Voilà la vallée du Cédron, la porte d'or qui se trouve exactement là où il y avait autrefois la porte de l'est du temple. Il y avait là encore ce mur de la ville avec la porte de Mifka à peu près ici. Là, vous avez ce coin nord-ouest où il y avait la forteresse d'Antonia et l'entrée générale pour le peuple était ici au sud pour aller à la belle porte. Le mur de lamentation se trouve ici derrière, à l'ouest. Bon alors, ça nous aide un peu à nous orienter. Voilà, une vue générale. Alors, nous avons ici une vue générale de ce sud-ouest. Par les fouilles qui étaient archéologiques, qui étaient possibles depuis la guerre des six jours, on a trouvé les restes de ce mur de l'ouest sur une longueur de 485 mètres. On a trouvé les restes de ce mur. Archéologiquement, on a pu établir les quatre entrées à l'ouest que vous trouvez ici, qu'on connaissait par les sources, mais maintenant on a trouvé toutes les traces. Le mur de lamentation est un reste de ce mur-là entre ces deux entrées. Vous voyez, les femmes prient ici, les hommes ici. L'entrée au sud, vous voyez, l'entrée générale pour le peuple ici par la double porte qui est la belle porte d'acte 3. Alors, maintenant, nous imaginons que nous sommes des simples juifs qui vont faire une grande fête à Jérusalem. Pâques, Pentecôte et Sukkot, donc la fête des tabernacles en automne. Vous voyez, il y avait une grande place au sud pour recevoir les milliers de ceux qui venaient pour les fêtes. Nous avons ici au sud une triple porte et une double porte. La double porte était pour le peuple, la triple porte était pour les sacrificateurs qui ont vécu au sud du mont du temple, donc sur l'Ophel. Et voilà, nous sommes des simples juifs, alors nous entrons ici par la belle porte. Vous voyez, il y avait beaucoup de petits magasins ici, n'est-ce pas? Lorsqu'on est venu de la Galilée, il fallait acheter des choses, des aliments, des souliers ou n'importe quoi. Vous voyez, la vie spirituelle et la vie de tous les jours étaient liées ici. Donc on ne faisait pas une séparation totale entre la vie spirituelle et la vie de tous les jours. Un principe très important aussi pour nous, de ne pas faire une séparation entre deux domaines. Parce que la vie spirituelle, c'est si Dieu joue un rôle, ou joue le rôle important, fondamental, dans notre vie de tous les jours, même en achetant des aliments ou des souliers. Alors, vous voyez ces escaliers, qui étaient beaucoup plus larges que les escaliers devant le triple porte. Ils avaient une largeur de 64 mètres, pas mal, n'est-ce pas? Et voilà, juste à côté, il y avait une maison de bain rituelle, une maison publique. N'est-ce pas? Lorsque, comme juif, on voulait aller au temple, il fallait d'abord se purifier rituellement. Et la loi de Moïse, surtout le Lévitique, parle tant de fois du fait, lorsqu'on est devenu impur, par plusieurs raisons, il fallait d'abord prendre un bain rituel et aller trois fois complètement dans l'eau, et voilà, le soir, on était pur. Nous allons voir la signification spirituelle de cela. Ici, j'ai pris cette photo exactement à l'emplacement où il y avait cette maison publique de bain rituel. Et c'est donc un bain rituel originel de l'époque. Alors, vous voyez ici des escaliers qui sont divisés en deux, un chemin large, un chemin étroit. Dans l'état impur, on est descendu sur le chemin large. On s'est mis trois fois dans l'eau, on s'est détourné de 180 degrés, et dans l'état purifié, on est monté sur le chemin étroit. N'est-ce pas? On comprend tout de suite le discours sur la montagne. Matthieu 7, le Seigneur explique, il y a le chemin large qui mène à la perdition, et le chemin étroit qui mène à la vie. Alors, dans l'état impur, on descend sur le chemin large, et dans l'état purifié, on monte sur le chemin étroit. Et j'ai trouvé, même dans le quartier des sacrificateurs à Jérusalem, des bains rituels où il y avait même deux entrées différentes. Une entrée, une porte pour le chemin large, une porte pour le chemin étroit. Vous voyez, ça correspond exactement avec les paroles du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on a dû faire ici? On s'est mis complètement dans l'eau. Et voilà, Éphésiens 5, 25 explique que le Seigneur a purifié l'Église par le bain de l'eau qui est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est comparée à un bain rituel. Et lorsque nous lisons la Bible nous révèle toutes nos erreurs, pour des péchés de notre vie. Et cela devrait nous amener à confesser sincèrement, à détourner 180 degrés, et voilà, nous sommes purifiés par la parole. Et cela faisait une des bases du judaïsme. Car en Hébreux 6, 1 et 2, nous lisons que les fondements du judaïsme, il y a plusieurs points, et entre autres, la doctrine des ablutions. Donc la doctrine des vins rituels. C'était basique. Chacun qui venait au temple, d'abord il fallait se purifier. Il fallait toujours de nouveau se tourner 180 degrés. Et voilà, c'est aussi basique pour la vie du chrétien. Toujours de nouveau se juger soi-même, régler les choses qui ne sont pas en ordre, et ainsi nous avons le privilège de jouir de la communion avec Dieu et avec le peuple. Voilà, acte 3 nous explique qu'on a mis chaque jour ici vers la belle porte un homme incapable de marche. Et voilà, un jour, Jean et Pierre, les apôtres, ils sont montés au temple vers 3h l'après-midi, où on a offert l'holocauste continuel du soir, à 3h l'après-midi. Ils sont allés pour prier au temple. Ils ont vu cet homme. Ils voulaient de l'argent. Pierre, il dit, je n'ai pas de l'or et de l'argent. Mais ce que j'ai, je te donne. Au nom du Messie Jésus, lève-toi et marche. Et il s'est levé, il a commencé à sauter ici devant la belle porte, et ensuite il est allé avec les apôtres au temple. Eh bien, cet homme représente chacun de nous. Il était incapable de marcher dès sa naissance. Donc, nous tous, nous sommes incapables, dès notre naissance, de marcher selon les commandements de Dieu. Et voilà, il était dehors, devant la porte. Il y a un livre de la littérature allemande qui s'appelle « Draußen vor der Tür », dehors, devant la porte. Et effectivement, ça, c'est notre position dès la naissance, en vue de Dieu, dehors, devant la porte. Il était incapable d'aller pour jouir de la présence de Dieu dans le temple. Mais par le Messie ressuscité, c'est devenu possible. Donc, la conversion est égale à cet événement. On reçoit la force par le Christ ressuscité pour marcher selon les commandements de Dieu. Alors, nous comprenons qu'il a sauté ici devant la porte, même que c'était prévu que normalement, il ne fallait pas faire ça. Vous voyez les escaliers, comme ils sont différents de quant à la largeur, n'est-ce pas? On le voit ici, même dans la maquette. D'ailleurs, ici, nous sommes aujourd'hui devant la belle porte. Mais on voit seulement encore ici une partie séparée. Bien sûr, ça serait intéressant de mettre de côté cette maison-là, qui date de l'époque des Byzantins, mais ça provoquerait encore plus de problèmes à Jérusalem, mais on a déjà assez. Mais ici, vous voyez les escaliers qu'on a trouvés après la guerre des six jours, qui montaient vers la belle porte. C'est une belle surprise qui se trouve ici sur les escaliers originels devant la belle porte. Et vous voyez, taillé du rocher du mont du Sion. Donc, on montait sur le rocher vers la maison de Dieu. Et on pense au psaume 40 où le psalmiste dit « Tu as mis mes pieds sur un rocher ». Et voilà, ainsi on est monté vers le temple. Alors ici, exactement ici, le Seigneur, le Messie et les apôtres, ils sont tant de fois montés au ciel. Au temple, pardon, oui. Mais le temple représente le ciel. Alors dire ça, elle s'intéressait à l'archéologie du temple, parce qu'elle avait 6 ans ici. Et je lui ai dit, alors monte en vitesse sur les escaliers. Il a essayé, il a dit, quand neutre, ça ne marche pas. Alors je lui ai expliqué, tu vois, les architectes de l'époque, ils ont fait exprès des escaliers de différentes largeurs, afin qu'ils ne puissent pas sauter sur les escaliers et monter en vitesse, mais avec sincérité. Voilà, une petite nuance, une petite pointe. Acte 3 qui nous dit que cet homme guéri, il sautait en l'air ici devant la belle porte, là où on ne devrait pas faire normalement une telle chose. Mais nous comprenons que lorsque quelqu'un rencontre le Messie ressuscité, alors c'est une joie hors du commun. Cette image nous explique pourquoi on a appelé cette porte la belle porte. Vous voyez, elle s'ouvrait vers un tunnel où il y avait ces voûtes merveilleuses et cette manière de construction on trouve dans l'Antiquité pour la première fois ici au temple. C'était quelque chose absolument magnifique. On trouve encore les restes aujourd'hui au-dessous de la mosquée El-Aqsa. Mais comme non-musulmans, on n'a normalement pas du tout accès à cela. Je veux simplement dire pour montrer qu'il y a, que les restes sont toujours là. On est entré à droite, on est sorti à gauche. Cela vient du plan du temple d'Ézéchiel, où on trouve cet ordre d'entrée et de sortir sur deux chemins différents. Donc c'est déjà une chose du futur temple qu'on avait intégré au deuxième temple, à l'anticipation. Mais lorsqu'on avait des problèmes, des difficultés, on avait le droit d'entrer à gauche. Pourquoi? Afin que les gens qui sortaient ont réalisé que c'était un homme avec des problèmes. Alors on l'a demandé comment ça va, et il pouvait expliquer tous ses détresses. Et on l'a consolé dans ce tunnel. Vous voyez comme le peuple de Dieu, à l'époque, a fait de la relation d'aide entre eux. Et vous comprenez qu'à l'époque, ils n'avaient pas besoin d'autant de psychiatres et autres comme aujourd'hui, notre société. Et c'est exactement ce qu'on trouve pour l'Église, pour l'Assemblée de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, Paul dit aux Thessaloniciens, « Encouragez-vous l'un l'autre. » Donc, la relation d'aide est basiquement pas une chose spécialiste, mais de chaque frère et sœur. Donc, lorsqu'on pratique cela dans la vie journalière, beaucoup de problèmes ne peuvent pas devenir des problèmes si grands où il faut des spécialistes avec un don particulier de pasteur. Alors, vous voyez, par l'archéologie du temps, on peut même apprendre quelques principes de la relation d'aide. Alors, nous sommes entrés dans le tunnel, soit à droite ou à gauche, selon notre état intérieur, au-dessous du portique royal de cette basilique, pour après monter sur les escaliers, sur l'esplanade du temple. Voilà, nous sommes déjà là. Vous avez ici la sortie du tunnel de la triple porte, la sortie de la double porte, de la belle porte. Et nous sommes des Juifs saints, nous sommes montés. Et voilà, il y a déjà là un mur. C'est un mur qui formait le carré de 500 sur 500 coudées. Voilà, c'était la place du temple de Salomon, qui se trouvait sur ce carré. D'ailleurs, entre deux, ce carré de 500 sur 500 coudées, on retrouve dans le plan d'Ézéchiel, pour les cours intérieurs. Mais j'ai déjà expliqué hier soir, à l'époque d'Hérode, on avait élargi, même doublé, la place du temple. Et voilà, vous avez ici cet élargissement vers le sud. Alors, ce carré de 500 sur 500 coudées était l'esplanade proprement. Et voilà, vous avez ici des gardes qui ont contrôlé si les gens se sont purifiés rituellement. Et cela montre qu'il y avait aussi une responsabilité collective dans le peuple de Dieu au temple. Ce n'est pas une chose personnelle si on s'est purifié, c'est basique, n'est-ce pas, la doctrine des ablutions. Mais il y avait aussi donc un contrôle, voilà une chose qui correspond à l'enseignement de Dieu pour l'Église. 1 Corinthiens 5 montre qu'il y a une responsabilité collective. Si quelqu'un vit dans le péché, des péchés graves, alors c'est la responsabilité de l'Église comme un ensemble de juger. Et 1 Corinthiens 11 explique, en rapport avec la scène, qu'il y a une responsabilité individuelle que chacun s'éprouve soi-même. Simplement la vie normale du chrétien. Maintenant, voilà, avec un avion, nous allons au-dessus du deuxième temps. Et vous voyez ici clairement ce carré de 500 sur 500 coudées. Vous voyez. Nous sommes entrés ici par la porte Hulda. Et voilà, lorsqu'on entre dans cette esplanade proprement dite, on voit encore une fois une division ici. Mais tout petit. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une chose petite mais très importante. C'est le mur mitoyen de clôture, qui était la séparation totale entre juifs et non-juifs. Ou plus précisément, entre juifs purifiés et non-juifs purifiés. Parce que aussi les païens qui sont venus, qui étaient bien, les bienvenus, il fallait aussi se purifier. Mais ils n'avaient pas le droit d'aller plus loin que le mur mitoyen de clôture. C'était un petit mur de à peu près 50 cm. Et au-dessus, il y avait une clôture de bois, encore un mètre. Et il y avait, en plus de reprises, des inscriptions en latin et en grec qui défendaient aux non-juifs d'aller plus loin. Et ces affiches annonçaient la condamnation à la mort, dit en avant. C'était une séparation totale. Eh bien, nous connaissons, je pense, cette expression, le mur mitoyen de clôture d'Éphésiens 2. Où l'apôtre Paul dit, en écrivant vers 62 après Jésus-Christ, depuis la prison à Rome, que Christ a aboli, détruit le mur mitoyen de clôture. Et il a fait des deux, donc des juifs croyants et des non-juifs croyants, un seul corps. Et il les a réconciliés avec Dieu. Donc, l'apôtre Paul explique, dans l'Église, maintenant, ce mur mitoyen de clôture est aboli par la croix. Il parle donc des saints qui sont unis, n'est-ce pas? On se dit, mais à l'époque où il a écrit ça, il y avait toujours ce mur mitoyen de clôture. Et c'était une séparation totale. Eh bien, il y avait déjà un sens prophétique dedans. Car 8 ans plus tard, à l'an 70, les Romains sont venus, ils ont détruit complètement Jérusalem. Le deuxième temps, il y a aussi le mur mitoyen de clôture. Et ce mur mitoyen de clôture n'a plus été rebâti depuis jusqu'à aujourd'hui. Et nous réalisons, donc, pratiquement toute la période de l'Église où on a annoncé l'Évangile dans le monde entier, où des millions de non-juifs et beaucoup de juifs sont venus à la fois en le Messie Jésus, c'est une période caractérisée par l'absence du mur mitoyen de clôture. C'est formidable. Alors Dieu n'a plus permis la reconstruction de ce mur. Mais lorsqu'on considère l'histoire de l'Église, on voit malheureusement combien de fois les hommes ont reconstruit des murs mitoyens de clôture entre les saints. Je ne dis pas entre les croyants et les incrédules. Je ne dis pas entre les croyants qui vivent en sainteté avec le Seigneur et ceux qui vivent continuellement dans le péché. Je dis des murs mitoyens de clôture, on a rebâti entre ceux qui vivent dans la sainteté. Ceux qui vivent en s'éprouvant journalièrement. Donc, on peut déduire d'Éphésiens 2 que de construire un tel mur mitoyen de clôture, c'est une attaque à la croix de Christ. Car Christ, par sa croix, a aboli le mur mitoyen de clôture entre les saints, entre les ceux qui se purifient. Voilà, nous sommes actuellement sur l'esplanade du temple. Vous voyez la mosquée El-Aqsa au sud. Et cette montée-là est dans la structure encore exactement la même comme la montée depuis la belle porte. Alors vous voyez, le mur du carré de 500 sur 500 coudées était à peu près, et nous sommes maintenant entrés dans cette cour. Simplement pour montrer comme ces choses existent toujours. Parce que les Palestiniens, ils disent, on n'a jamais trouvé une seule pierre ici à Jérusalem qui provient du temple, d'un temple juif. Donc on nie totalement l'existence du temple juif ici. Et je vous montre simplement quelques détails, de beaucoup de détails qui existent toujours. On a trouvé deux affiches originelles du mur mitoyen de clôture. Ceux qui lisent le grec peuvent lire, c'est une défense aux étrangers, donc aux non-juifs, d'aller plus loin que ce mur mitoyen de clôture, et voilà, akolutein tanaton. Alors, on est soi-même responsable si la mort va suivre. Maintenant, avec cette image, je peux vous expliquer toute l'histoire du temple. Vous voyez ici le mont de Sion. Alors ici, vous avez la vallée du Cédron, le mont des Oliviers, et voilà la montagne au nord de Sion. Ici, la montagne sud-ouest de Jérusalem, qui depuis le 1er siècle après Jésus-Christ est nommée le mont Sion. Mais c'est pas le mont Sion biblique. Le mont Sion, c'est toujours la même chose comme le mont Morija. Morija et Sion, dans la Bible, c'est toujours la même chose comme le mont. Mais cette montagne sud-ouest, d'ailleurs, cette montagne sud-ouest, c'est la montagne où il y avait le quartier des premiers chrétiens. Aussi, cette salle supérieure, où le Seigneur a mangé de la Pâque, a institué la scène. C'est la même salle où le Saint-Esprit à Pentecôte a été répandu, voilà, répandu. Et ici, vous avez la montagne nord-ouest de Jérusalem, avec Golgotha. Voilà. Et Salomon a bâti le temple sur le sommet, sur ce rocher, qui se trouve dans la mosquée d'Omar aujourd'hui. Et voilà c'était un carré de 500 sur 500 coudées. Au temps des Maccabées, pour une raison que je ne peux pas expliquer maintenant, on avait agrandi l'esplanade ici vers le sud. Et au temps d'Hérode, à partir de 20 avant Jésus-Christ, on a encore agrandi vers le sud, vers l'ouest et grandement vers le nord, vous voyez. Ici, c'est la place du mur de lamentation. Vous voyez, c'est un reste, pas du tout du temple de Salomon, mais seulement du deuxième temple agrandi. Voyez ici la belle porte avec le tunnel, la triple porte avec le tunnel. Et ce que vous voyez également, c'est comme on a intégré par cet élargissement le mont, la montagne du Nord, parce que on a rempli la vallée de Peteca pour doubler la place du temple. Eh bien, cela nous explique une chose pour l'avenir. Le temple, selon Ézéchiel, aura une cour encore plus grande, une cour pour les nations, de 1,5 km sur 1,5 km. Cela veut dire que lorsque le Seigneur Jésus agrandira le temple après sa venue en gloire, toutes les montagnes autour de Jérusalem seront intégrées dans l'esplanade du temple futur. Comme on avait intégré cette colline au nord à l'époque, vous voyez? Alors, ça veut dire que Golgotha tombera dans la cour des nations, comme un mémorial pour tout le millénium de la croix de la montagne sud-ouest tombera également dedans. D'ailleurs, j'ai calculé, depuis le rocher de Golgotha jusqu'au rocher sur le mont Sion, il y a à peu près 1000 coudées, donc 500 mètres, ça tombe dedans. La montagne sud-ouest où le Seigneur a institué la scène, où le Saint-Esprit a été répandu sur l'Église. Également, la montagne des Oliviers où le Seigneur avait donné, acte 1, verset 8, le mandat pour la mission mondiale, comme sauveur du monde. Où il reviendra, dans l'avenir, Zacharie 14, comme juge du monde. Donc, nous avons ici deux fondements basiques de l'Évangile, le sauveur du monde, le juge du monde. Et ici, la montagne au nord, avec les bassins de Bethesda, sont importants parce que Jean 5, c'est là où le Seigneur a guéri cet homme qui, pendant 38 ans, ne savait pas marcher. Et Israël dans le désert était pendant 38 ans, il y avait 2 ans jusqu'au moment où Dieu a donné la Torah, la loi. Et ensuite, 38 ans, Israël dans le désert sous la loi. Impossible de marcher. Et seulement par la grâce de Christ, il a su marcher. Donc chaque montagne a une signification profonde dans l'histoire du salut. Et ils seront intégrés dans le temple futur du Seigneur. Et voilà, ça nous rappelle aussi un des psaumes des degrés qui dit « Les croyants sont comme le mont de Sion, qui ne meut jamais, qui ne tombe jamais. Et Dieu est autour d'eux comme les montagnes sont autour de Sion. » Donc Dieu est comparé à toutes ces montagnes qui tous ont une signification profonde dans l'histoire du salut. Voilà, c'est le moment pour faire une pause. Simplement, encore, on voit ici le mur mitraïen de clôture dans la maquette, et voilà la séparation totale entre non-juifs et juifs. La cour des nations allait donc juste, était énormément grande. Donc, c'était vraiment la volonté du peuple juif que les nations viennent à Jérusalem pour connaître le seul vrai Dieu. Et voilà, le mur mitraïen de clôture était assez bas, 1,50 m, pour qu'on ait vraiment la vue vers le temple proprement dit. Mais seulement par la croix de Christ, maintenant, nous avons ceux qui étaient éloignés sont devenus proches en l'accès au cœur de Dieu. Voilà. En fait. Une petite récréation. Avant la coupure, on a parlé encore du mur mitoyen, de clôture, et j'espère que nous avons pu oublier cela. N'est-ce pas? Il est remarquable, on a peut-être connu cette expression de l'épître aux Éphésiens, mais c'était peut-être pour plusieurs une expression purement abstraite. Mais de voir que c'était une réalité physique au temple, et on réalise beaucoup mieux la signification profonde de cette structure. Vous voyez? Donc, comme juif purifié, on avait le droit de continuer vers les cours intérieures. Et ici, vous voyez 12 escaliers qui menaient sur cette esplanade, qu'on appelle en hébreu le chel. C'est une chose importante parce que les gens du Sanhédrin, de la plus haute cour de justice d'Israël, ils avaient, pendant les jours de fête, ils avaient congé. Et là, ils sont venus sur le chel, ici, sur cette terrasse, pour répondre à des questions publiquement. Alors les grands docteurs d'Israël ont répondu aux questions là. Et cela nous donne le cadre pour le Seigneur à 12 ans, Luc 2 à la fin. Le Seigneur au milieu des docteurs au temple, qui demandaient, qui posaient des questions. Et voilà, les parents étaient venus pour la Pâque à Jérusalem, mais évidemment seulement pour les 2 jours strictement saints où il fallait être au temple. Et après, ils sont retournés. Mais le Seigneur, à 12 ans, il voulait rester au temple. Aussi, les jours qui n'étaient pas obligatoires. Alors, les parents ont réalisé, en rentrant, que le fils aîné était pas là. Alors, ils sont retournés, ils l'ont cherché à Jérusalem. Finalement, ils l'ont trouvé dans le temple, au milieu des docteurs. Donc là, sur cette terrasse. Et ce qui est remarquable dans le texte, c'est, en Luc 2, que pas seulement lui, à 12 ans, posait des questions au grand docteur d'Israël, mais eux aussi posaient des questions à ce garçon de 12 ans. N'est-ce pas? Ça c'était pas normal. Et ils ont réalisé que ce garçon, il connaissait les Écritures comme aucun autre. Et lorsque les parents sont venus, ils ont dit, nous avons eu tellement de soucis. Ils disent, vous savez pas que je dois être dans les choses qui appartiennent à mon père. Il aimait le temple. Et cela peut nous expliquer que déjà à 12 ans, c'est le moment d'aimer la Bible et d'aimer la maison de Dieu. Donc le Seigneur est effectivement un exemple pour tous les garçons et filles à 12 ans. D'ailleurs, vous savez qu'à 13 ans, on fait la bar mitzvah dans le judaïsme. Bar mitzvah veut dire fils du commandement. À 13 ans, un garçon devient adulte. Et on considère un garçon à 13 ans comme responsable, personnellement responsable devant Dieu quant au commandement, de vivre selon la loi. Alors on fait une grande fête, encore aujourd'hui, le père, ce jour-là, il prie, Seigneur, je te loue que tu me laisses sortir de ma responsabilité pour mon fils. N'est-ce pas, parfois on aimerait aussi faire ça pour nos garçons, depuis 13 ans. Et voilà, depuis ce moment-là, on était donc aussi obligés, puisque la Torah, la loi, dit que tous les mâles doivent apparaître 3 fois par an, par Pentecôte et Fête des Tabernacles, devant la face de l'Éternel, à Jérusalem. Donc on a dit depuis 13 ans, il faut. Mais dans le judaïsme, normalement, on a déjà l'année d'avant, on a pris avec les garçons pour qu'ils commencent à apprendre. Donc, c'est une nouvelle étape. C'est pour ça que le Seigneur, à 12 ans, se trouve ici au temple. Et si on voit déjà cette perspective-là, vous voyez, il y a plusieurs entrées. Je ne vais pas expliquer toutes les entrées, ça serait intéressant, mais celle-là, c'est la porte des premiers-nés. Et nous, bon, en Luc 2, un peu plus qu'un mois après la naissance, Marie et Joseph sont allés au temple. Parce que Marie devait se purifier par des sacrifices. Et en plus, c'était là où ils ont racheté le premier-né. Car chaque premier-né appartenait à Dieu. Donc, était automatiquement dédié pour le service au temple. Pour aller, comme Samuel, à peut-être 4-5 ans, au service du temple. Mais la loi donner la possibilité pour racheter le premier-né par de l'argent, et ainsi on pouvait garder l'enfant dans la famille. Alors Marie et Joseph, ils ont décidé de payer et pour garder Jésus dans la famille. Alors il fallait entrer dans cette porte des premiers-nés pour faire ce rituel, qu'on fait dans le judaïsme d'ailleurs encore aujourd'hui. Et ce rituel peut être fait par n'importe qui est un descendant d'Aaron. Donc un sacrificateur. On pouvait choisir qui on voulait. Et voilà, c'était exactement le moment où Siméon, le juste, par le Saint-Esprit, est entré au temple. Il a dit qu'il a pris l'enfant dans ses bras et il a béni les parents. Alors, c'est effectivement le rituel du rachat du premier-né qu'on a fait ici. Donc on peut exactement localiser aujourd'hui où cela s'est déroulé. Et ce qui est remarquable, normalement, le sacrificateur, il a béni l'enfant. Mais Luc 2 nous dit que Siméon a seulement béni les parents. N'est-ce pas? Hébreu 6 explique que toujours, Hébreu 7, toujours celui qui est plus élevé peut bénir celui qui est moins élevé. Et jamais réciproquement. Donc, Siméon, il a réalisé, c'est le Messie, je ne peux pas bénir le Messie. Donc il a seulement béni les parents. Voilà, on voit encore mieux la porte des premiers-nés sur la terrasse. Maintenant, je vous explique la basilique au sud, le portique royal. Vous savez peut-être ce que c'est une basilique au temps des Romains. Elle servait à deux choses, principalement, comme place de la justice, de la cour de justice, et deuxièmement, comme une maison de trafic, un magasin. Et voilà, on a fait de cette portique exactement ces deux choses. Le Talmud nous explique que 40 ans avant la destruction du temple, le Sanhédrin a pris sa place ici dans le portique royal. Donc c'est la place du Sanhédrin Donc aussi la place où le Seigneur a été jugé devant Caïphe. En plus, c'était ici, vers l'ouest, où on a vendu les sacrifices. Donc les taureaux, des boucs, etc., des brebis. On a aussi changé l'argent en demandant énormément de marge sur la valeur. Donc voilà, nous avons l'endroit où le Seigneur a purifié le temple. Et les évangiles nous disent qu'il y avait deux purifications du temple. L'une avant le service public du Seigneur, Jean 2, et l'autre juste quelques jours avant la crucifixion. Jean 2, le Seigneur y entre, et il chasse tous les vendeurs et ceux qui ont changé de la monnaie en disant « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et voilà. Donc il y avait un bruit terrible ici. Alors c'était indigne dans la maison de Dieu de faire un bruit, un tel bruit. N'est-ce pas, au début j'ai expliqué, dans le judaïsme, on n'a pas séparé entre le domaine de tous les jours et le domaine spirituel. Mais vous voyez, c'était en dehors du temple où on pouvait acheter dans les magasins. Mais de faire un bruit là où des païens, dans la cour des païens, voulaient trouver la communion et la relation avec le seul vrai Dieu, c'était une chose indigne. Le Seigneur a tout chassé parce qu'il faut une dignité devant la face de Dieu. Et il est remarquable dans le Talmud, donc c'est l'œuvre fondamentale de la théologie juive, ce portique est appelé Chanout, maison de trafic. C'est expressément ce mot que le Seigneur a utilisé, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, Chanout. Il les a chassés. Et une deuxième fois, Matthieu 21, Marc 11, Luc 19, le Seigneur y entre, d'ailleurs le lendemain, après son entrée triomphale sur l'âne à Jérusalem. Il entre et chasse tous les vendeurs en disant, il est écrit que ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. N'est-ce pas ? Le Seigneur a chassé cette indignité en vue des païens qui voulaient trouver le silence et la relation avec Dieu. Et là, le Seigneur ajoute, il ne dit pas, simplement ne faites pas une maison de trafic, mais il dit, vous avez fait du temple une caverne de voleurs. Parce que c'était l'endroit où on a fait de l'argent d'une façon inimaginable. Sur les sacrifices, on a mis des marges terribles, iniques, et aussi pour changer de la monnaie. Parce qu'il y avait seulement une sorte de monnaie qui était acceptée pour mettre dans les caisses du temple. Donc tout le monde qui venait, donc ces centaines de milliers de personnes qui devaient changer de la monnaie. Et pour la Pâque, c'était le moment où on faisait le plus d'argent, parce que chaque famille devait acheter une brebis. Et c'est exactement chaque fois à la Pâque, donc au moment de l'année où on faisait le plus d'argent, où le Seigneur les chasse. Alors ici nous avons le sujet de l'argent et de la maison de Dieu. Et lorsque sur cet domaine il y a quelque chose qui joue plus, il faut le Fils de Dieu qui intervient. Et lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, combien de fois il y a eu des scandales sur le domaine de l'argent jusqu'à aujourd'hui. Alors si c'est le cas, alors le Fils de Dieu, le Messie doit intervenir. En plus, le Seigneur a prouvé que lui est le roi des rois et le juge supérieur. Supérieur au Sanhédrin, n'est-ce pas ? Parce que le lendemain, les souverains sacrificateurs et les anciens rencontrent le Seigneur et disent « Dans quel droit tu fais ces choses-là » Parce que, vous voyez, le Sanhédrin avait donné l'autorisation pour faire de l'argent ici. Alors, un rabbin, même sans ordination, de la Galilée, il s'oppose au Sanhédrin. Impossible. Dans quel droit tu fais ça ? Et le Seigneur dit « J'ai aussi une question à vous. Le baptême de Jean, est-il de Dieu ou des hommes ?» Alors, ils se sont à l'écart. Si nous disons, c'est de Dieu, il dit, pourquoi vous n'avez pas cru? Si nous disons, le baptême provient des hommes, alors le peuple sera scandalisé, ils vont nous lapider. Très bien. Nous ne le savons pas, le Seigneur. Alors je ne dis pas dans quel droit je fais ces choses. C'est touchant, cette sagesse du Seigneur. Et voilà la basilique, le portique royal, c'était l'endroit où le Seigneur s'est révélé comme roi des rois au temple. Ici, vous voyez une reconstruction du portique royal. Vous voyez les trois compartiments et regardez ces colonnes. Ils avaient une hauteur de à peu près 17 mètres. Il fallait trois hommes pour embrasser une de ces colonnes et ils étaient construits d'une seule pièce. de pierre. C'était vraiment royal. Et regardez aussi le plafond fait du bois de cèdre. Alors c'est là où le Seigneur s'est révélé comme roi des rois. Maintenant, nous sommes au milieu. Vous voyez, c'est comme une cathédrale. Et maintenant, nous regardons vers l'est. Il y a ici un rassemblement. Nous sommes la première fois au temple à Jérusalem. Alors nous allons voir ce que c'est. C'est l'endroit où le Sanhédrin se rassemblait. Vous voyez, ici, nous sommes au coin sud-ouest, où il y avait ce pont magnifique qui menait directement dans le portique royal. Et il y a des raisons dans le texte des évangiles pour dire que le Seigneur est monté pas par la belle porte, mais directement ici, ce jour où il a chassé les vendeurs dans le temple. Car le texte des évangiles dit, littéralement, ayant entré, il commençait à chasser. Donc c'était juste derrière cette entrée où tout de suite il commençait à chasser. Mais entrant par la belle porte, il fallait d'abord aller par un grand tunnel, monter les escaliers et retourner en arrière pour entrer dans le portique royal. Donc vous voyez dans cette entrée magnifique royale où le Seigneur est monté pour se révéler comme roi des rois. Voilà, une autre perspective. Et on trouve encore aujourd'hui un reste ici, dans le mur, qui provient de cette entrée. Voilà, je le présente ici, ça c'est encore un reste. Ici, le Seigneur est monté et entré ici dans le portique royal. Voilà, je montre simplement pour illustrer combien de détails sont encore visiblement physiquement. Voilà, il y avait une première voûte qui était sur cette base, ici, qu'on voit encore aujourd'hui. Et vous voyez, donc la route originelle de l'époque, encore ici, en dessous. Maintenant, nous sommes là, devant le Sanhédrin. Et à l'an 32, le Seigneur était ici devant Caïphe, devant le Sanhédrin. Et il a été condamné à mort, comme faux messie. Donc ils n'ont pas accepté son pouvoir comme messie pour chasser. Ils étaient forcés à se décider. Soit il est le roi du roi, soit il est quelqu'un qui s'oppose au Sanhédrin. Et effectivement, Deutéronome 19 dit, celui qui s'oppose à la cour de justice, à l'endroit où Dieu fait habiter son nom, doit mourir. Donc il fallait se décider. Soit il est supérieur à cette cour instituée par Dieu lui-même, soit il est n'importe qui, alors il doit mourir. Et ils ont pris la décision, il n'est pas le Messie. Mais le Seigneur a été condamné à la mort par le souverain sacrificateur. Donc par la plus haute personne au temple qui devait offrir le sacrifice. Et voilà, le Seigneur a accompli les sacrifices du temple au temple. Voilà, aujourd'hui on peut exactement localiser le portique royal ici. Et c'était ici dans ce coin, sud-est, où le Seigneur a été condamné par Caïphe. Comme ça on peut marcher sur les traces de Jésus aujourd'hui. Vous voyez, les escaliers devant la belle porte. Et ici, l'entrée directe au portique royal. La vallée du Cédron. La place devant le mur de lamentation. Le lieu du temple proprement dit. Alors, le Seigneur était devant trois cours juives. D'abord dans la maison privée de Caïphe et Anna. Ensuite, devant le Sanhédrin, vendredi matin. Ensuite, il y avait trois procès romains, n'est-ce pas? Trois juifs, trois païens. D'abord, ils l'ont amené chez Pilate, Ponce Pilate. Et lui, il voulait se tirer de l'affaire. Il a entendu, Hérode est là, et Hérode de la Galilée est là pour les jours de fête. Alors, il s'est dit, Jésus vient de la Galilée, alors c'est lui qui devrait s'occuper de cette affaire. Ils l'ont apporté ici. Il était devant Hérode, où le Seigneur a rien répondu. Il n'a pas parlé avec Hérode, parce que c'était un homme inique, sans vérité. Ensuite, il a été amené de nouveau devant Ponce Pilate et condamné à mort. Ensuite, il a porté la croix, donc le pilum, seulement la partie horizontale de la croix, par la porte du jardin pour mourir à Golgotha. Mais maintenant, vous voyez quelque chose. Pour aller depuis le Sanhédrin chez Ponce Pilate, quel chemin faut-il prendre? Le chemin direct sort ici à l'ouest par ce pont devant la maison d'Hérode chez Ponce Pilate. Donc, on peut localiser par ça la porte où le Seigneur Jésus a été rejeté dehors du temple. Et voilà, j'ai déjà expliqué cet endroit-là et le mur de lamentation aujourd'hui. Et sous la voûte de ce pont, les hommes prient aujourd'hui. Je vais les montrer. Voilà la maquette. Vous avez cette entrée, c'est là où les femmes prient devant le mur de lamentation, et ici les hommes. Et même au-dessous de cette voûte que nous allons voir encore. Alors ici, j'appelle cette porte la porte du rejet, où le Messie a été rejeté, jeté dehors du temple. Le mur de lamentation aujourd'hui. Voilà, le mur mitoyen de clôture entre femme et homme. Ici, vous voyez cette voûte. Et lorsqu'on entre ici dans ce tunnel, On trouve encore la structure originelle de ce pont où le Seigneur Jésus a été jeté dehors. Nous sommes ici. Voyez, c'est la première voûte de ce pont. Ici au-dessus, le Seigneur est sorti du temple pour aller vers Ponce Pilate. Alors c'est une belle image pour les femmes parce qu'ils ne peuvent jamais y aller. J'ai pris cette photo ici, sous cette voûte. Vous voyez un juif aujourd'hui qui prie avec le talit, donc cette couverture de prière. Et il le met sur la face. Et l'apôtre Paul, se référant au talit de Corinthiens 3, il dit, lorsque Israël, qui ne reconnaît pas le Messie, lit la Torah, il y a une couverture sur leur cœur. Et lorsqu'ils retournent au Messie, cette couverture est enlevée et avec des faces découvertes, nous voyons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Voilà, un juif qui ne connaît pas le Messie prie avec cette couverture sur la face, au-dessous de la voûte où le Messie a été rejeté il y a 2000 ans. C'est ici où le peuple d'Israël, encore aujourd'hui, se lamente devant Dieu, mais exactement là où le Messie a été rejeté. Donc voilà la préconnaissance et la providence de Dieu, même dans les choses archéologiques, vous voyez. D'ailleurs, si on peut revenir encore, il est intéressant, 1 Corinthiens 11 dit, un homme, comme chrétien, n'a pas le droit d'avoir quelque chose sur la tête, en priant ou en prophétisant. Et cela était absolument contre la culture, parce que dans le judaïsme, c'est normal qu'un homme soit couvert. Aussi une femme, mais là, dans le judaïsme, on n'est pas aussi strict que pour les hommes. Donc, cette coutume, ou cette tradition apostolique de 1 Corinthiens 11, est contre la culture juive, mais aussi contre la culture romaine, car les Romains, les femmes et les hommes étaient couverts en priant les dieux. Aussi contre la culture grecque, car chez les Grecs, hommes et femmes étaient découverts en priant les dieux. Alors, vous voyez, c'est une installation, 1 Corinthiens 11, qui est ni juif, ni grec, ni romain, mais chrétien. Les évangiles nous parlent du fait du temple. Et voilà, c'est la place la plus haute dans les cours extérieures du temple, ici au sud-est. Joseph Flave, un sacrificateur du 1er siècle, décrit le portique royal et il dit que c'est un bâtiment absolument unique que le soleil n'a jamais vu. Et il décrit ce point ici. Et il dit, lorsqu'on est ici en haut et on regarde en bas, alors on commence à perdre l'équilibre. On voit ici, en plus, dans la vallée du Cédron qui est très enfoncé, c'est une place particulière. Et les évangiles nous disent que le Seigneur, avant ce service public, il a été tenté par le diable au désert. Et ensuite, il a été amené au temple, sur le fait du temple. Et le diable a dit, saute depuis ici, et selon Psaume 92, 11, les anges te porteront. Voilà, dans les autres tentations, le diable n'a jamais cité les Écritures. Mais ici nous avons le sujet, le diable au temple. Et lorsque le diable se trouve au temple, il vient en quelque sorte avec la Bible sous main. Il cite la Bible comme le Seigneur. Dans chaque tentation, il a cité la Bible et il a fermé la bouche au diable. Pourquoi ? Pour nous montrer que la parole de Dieu est une épée, l'épée de l'esprit, Éphésiens 6. Et dans le combat avec le diable, il faut toujours utiliser des versets bibliques. Mais que faire lorsque le diable utilise aussi l'épée de l'esprit? Eh bien, d'abord, il ne cite pas bien, il laisse de côté ce bout de phrase dans ce psaume qui dit que Dieu te gardera sur tous tes chemins. N'est-ce pas? C'était pas intéressant pour lui. Il a laissé de côté. Et le Seigneur répond par un autre verset, « Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. » Et le Seigneur a gagné. Pour nous montrer, il faut connaître beaucoup de versets bibliques. C'est pas des centaines. Il faut apprendre par cœur. Mais il faut aussi connaître la pensée générale de la parole de Dieu. Et l'ennemi a cité un verset d'une façon à l'encontre de l'Écriture en général. Et le Seigneur a cité un verset, mais en harmonie avec la pensée générale de la parole de Dieu. Une chose intéressante, il y a une ancienne tradition rabbinique qui dit « Lorsque le Messie viendra, il se révélera sur le toit du temple. » Tiens, il y avait donc, c'est pas basé sur la parole, mais il y avait cette pensée dans le peuple juif, « Le Messie se révélera sur le toit. » Et voilà un événement avant le service public du Seigneur. Ça a été le moment pour se révéler à Israël comme Messie en se jetant du toit du temple. Mais le Seigneur n'a pas accepté de faire une show. On dit comme ça en franglais. Alors, vous voyez, le Seigneur ne voulait pas se révéler de cette façon, mais il est allé en Galilée après pour prêcher la parole. Donc, c'est la prédication de la parole qui est le moyen pour apporter l'évangile. Ici, vous voyez encore les cours de pierre originelles de la fête du temple. On peut exactement localiser ces événements. Les petites pierres sont de l'époque islamique. Voyez. Mais les grandes pierres ici sont typiquement les pierres hérodiennes. Alors, encore une fois, le fait du temple, le Seigneur n'a pas accepté. D'ailleurs, Jacques, le frère du Seigneur, cela nous connaissons depuis l'histoire, Eusèbe, dans l'histoire de l'Église, le décrit, a été jeté depuis le fait du temple, lorsqu'on l'a tué, pour son témoignage, pour Christ. C'est une petite chose, en plus de l'écriture, qui est quand même intéressant. C'est-à-dire l'an 62, il est mort depuis 6. Alors le Seigneur est allé en Galilée, et là il a commencé à se révéler comme Messie, par la prédication de la parole. Et voyez, Ésaïe 9 a dit que vers le lac de Génézareth, dans le territoire de Zébulon, la lumière du Messie sera visible pour la première fois. Le peuple qui marcha dans les ténèbres a vu une grande lumière. Voilà, le Seigneur s'est révélé ici, et pas sur le toit du temple. Nous étions ici, coin sud-est, et maintenant nous allons vers le coin nord-est. Là, vous voyez la piscine d'Israël. C'est là où on a lavé les animaux qui devaient être sacrifiés. Et on les a fait entrer par cette porte au nord, c'est la porte des brebis. Ici, vous voyez encore la porte de l'est. Eh bien, c'est beau de voir cette piscine, donc les animaux devaient être tout à fait propres, pour être une image, un symbole pour le sauveur juste et innocent qui devait mourir comme sacrifice. Et voilà, le Seigneur, au temple, Jean 10 explique. Moi, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sera sauvé. Et vous voyez, dans le contexte du monde des disciples, on pouvait comprendre très bien. C'est là où, en quelque sorte, l'homme unique, avec le sacrifice innocent, et d'entrer pour recevoir le pardon de Dieu sur la base de la confession du péché et sur la base du sang répandu du sacrifice. Alors, nous comprenons. Moi, je suis la porte des brebis, celui qui entre par moi sera sauvé, c'est-à-dire est sauvé sur la base du substitut qui est le Seigneur Jésus. C'est une photo exclusive de 1897 à peu près. Et vous voyez encore la piscine d'Israël. Aujourd'hui, elle est plus visible, on l'a remplie et c'est un parking de voitures. Mais simplement pour montrer, puisque Arafat, il a dit, on n'a jamais trouvé une seule pierre d'un temple juif ici. Et là, vous voyez encore la porte des brebis. Vous voyez les cours intérieures, et j'aimerais expliquer encore cette maison. Cela me touche particulièrement. Pourquoi? C'était la maison où habitaient les sacrificateurs, au temple. Le Seigneur dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Je vais à la maison du père pour vous préparer des demeures, et je reviendrai pour vous prendre auprès de moi. Donc ici, nous avons l'avant-goût des demeures des sacrificateurs dans la maison du Père. Et vous voyez, c'est dans la proximité du lieu très saint qui se trouve ici. Donc cela nous donne un avant-goût de notre communion éternelle, dans l'intimité avec le Tout-Puissant, avec le Père. Une image d'aujourd'hui, avec Irsa, j'ai pris un petit avion, on est allé autour du mont du temple, n'est-ce pas? Il fallait aussi qu'elle voit ça depuis en haut, pour qu'il n'y ait pas de réflexe, j'ai ouvert la fenêtre, et prendre des photos comme ça, et elle était derrière moi, donc elle avait tout le souffle du vent dans le visage, mais entre Dieu, on a réglé le conflit. Vous voyez, ici, le parking, exactement au lieu de la piscine d'Israël. On lavait les sacrifices. Un peu plus loin, j'ai pris une photo. Ici, on a à peu près l'entrée de la porte des brebis. Voilà l'endroit de la forteresse d'Antonia. Ici, exactement, était le lieu des demeures des sacrificateurs au temple. Voilà. Maintenant, nous allons nous occuper de la porte de l'Est et de la porte de Miskat, qui était liée par des escaliers. La porte de l'Est. C'était pas une porte pour n'importe qui. C'était la porte où on sortait le jour du grand pardon, le Yom Kippour, en automne, le bouc émissaire. Il sortait ici. Il descendait les escaliers à la porte de Miskat, qui signifie la porte de la rétribution. Il y avait un pont qui descendait la vallée du Cédron, remontait le mont des Oliviers, et ensuite on l'a chassé dans le désert de la Judée qui se trouve derrière le mont des Oliviers. Et là, il est mort dans le désert. Pour éloigner les péchés d'Israël pour toujours. Donc, c'est une porte qui nous parle beaucoup, parce que Israël a fait, an après an, l'expérience qu'un substitut innocent doit sortir le temple, la porte du temple et la porte de la ville, pour mourir hors du camp, pour éloigner pour l'éternité les péchés. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Seigneur qui, portant la croix, est sorti du temple, de la ville, pour mourir hors du camp. Voilà, le bouc émissaire était un animal innocent qui devait porter comme substitut les péchés d'autrui. Et il est sorti par cette porte. Il faut dire, la porte originelle de l'Est était un peu plus bas que cette porte actuelle, qui date, on va dire, de l'époque des Byzantins. Mais c'est au même endroit. Et d'ailleurs aussi, la génisse rousse, un sacrifice unique, qui, selon la tradition, s'est fait depuis Moïse jusqu'à la destruction du deuxième temple, seulement quelques fois, à peu près 9 fois. Donc c'est le sacrifice qui s'approche le plus du sacrifice unique du Seigneur. Vous voyez? Et la génisse rousse, sans ces sacrifices, tout le service au temple était impossible. C'était effectivement le sacrifice de base. Alors la génisse rousse, on l'a aussi fait sortir depuis ici, sur ce pont, par la vallée de Cédron, et sur le sommet du mont des Oliviers, on l'a sacrifié. Voilà la porte de l'Est, et ensuite la porte de la rétribution, la porte de Mifkat. Il y avait encore une chambre ici en haut, sur la porte de l'Est, où on avait les coudées, la grande coudée et la petite coudée. Donc les références des mesures au temple, comme le maître à Paris. Eh bien, la mesure de justice au temple. Quelle est notre mesure de justice? La parole de Dieu. Et voilà un verset 1 Timothée 5, en rapport avec les anciens qui pêchent. D'ailleurs, le verbe en grec dit qu'ils ne pêchent pas une seule fois, mais continuellement. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque des anciens sont dans une telle position? Alors, 1 Timothée 5, 21. Je t'adjure, devant Dieu et le Christ Jésus, et les anges élus, que tu gardes ces choses sans préférence, ne faisons rien avec partialité. Sans préférence, sans partialité. Il faut la mesure de la sainteté de la maison de Dieu. Alors, la référence au-dessus de la porte de l'Est, où le bouc émissaire sortait chaque camp. Vous voyez, une vue depuis la cour intérieure du temple, directement vers le sommet du mont des Oliviers, qui se trouve ici. Là, on a sacrifié la génisse rousse, et derrière, on a chassé le bouc émissaire. C'est tellement beau comment on peut expliquer l'évangile. Par ces images, c'est que ça signifie le pardon absolu, éloigné pour toujours. Le bouc émissaire meurt dans le désert et ne revient plus jamais. Voilà, nous allons nous occuper encore des cours intérieurs, mais pas de chaque maison. Je suis en train d'écrire un livre, grand format, plusieurs centaines de pages, avec des images 4 couleurs, et ça devrait aussi sortir en français. Et là, j'expliquerai tout dans le détail. Voilà la forteresse d'Antonia. Et nous allons nous occuper de celle-là. Parce que, voyez, acte 21, l'apôtre Paul est revenu à Jérusalem. Il est allé au temple. Et voilà des juifs de la Turquie, ils l'ont vu, de l'Asie, et ils ont dit, ah voilà, cet homme qui dans le monde entier sème des fausses doctrines. Et ils ont dit, il a amené des Grecs dans le temple. Donc ils l'ont accusé d'avoir amené à travers le mur victorien de clôture des Grecs. Et Luc explique pourquoi ils ont dit ça, parce qu'ils l'ont vu marcher dans la ville de Jérusalem avec un Grec. Vous voyez, alors leur déduction, il a amené, pas un Grec, c'est plus impressionnant de dire des Grecs, au temple. Et voilà, les Romains avaient donné la permission aux Juifs de tuer tout de suite des personnes qui passaient le mur mitoyen de clôture, sans cour de justice. Autrement, ils n'avaient pas le droit d'exercer la punition capitale. Mais là, une exception. Paul au temple, la foule se jette sur lui et il veut le tuer dans la cour des nations. Alors, à ce moment-là, un troupe de soldats est descendu les escaliers et ils ont sauvé, à la dernière seconde, Paul. Ils l'ont porté, ils l'ont amené sur les escaliers, ici au coin. Et là, Paul dit à l'officier, au chiliarche, « Est-ce que je peux parler au peuple ?»« Ah bon, tu parles grec ? Alors, tu n'es pas ce terroriste qui... »« Non, non, j'ai aussi droit de citoyenneté romaine. » Alors, il dit « Oui, mais bien sûr. » Alors, Luc dit, « Paul se mettant sur les escaliers, il parle en hébreu et donne son témoignage. » Acte 22. Il explique comment il était zélé comme eux. Il dit pas « J'étais un fanatique comme vous. »« J'étais zélé comme vous. » Mais il explique « J'étais aveugle. » Et finalement, j'ai rencontré le Messie. Ressuscité. Tout le monde écoute. Bien. Et il dit finalement, j'étais au temple, j'ai eu une vision, et le Messie, le Seigneur m'a dit, ici à Jérusalem, ils n'accepteront pas ton témoignage. Je t'envoie loin vers les nations. Et Luc nous explique, ils ont écouté soigneusement jusqu'à cette parole. Et ensuite ils ont dit, cet homme doit mourir. N'est-ce pas? De dire, les païens connaissent rien de la parole. Écoute mieux que ceux qui sont vraiment au centre, là où Dieu fait habiter son nom. Inacceptable. Mais vous voyez, c'était là, cette scène, dans la cour des nations, qui a été faite pour les nations, qu'ils puissent venir pour connaître Dieu, le seul vrai Dieu. Alors là, Paul explique sa mission pour aller vers les nations. Ils n'ont pas accepté. Donc, c'était simplement une forme architecturale, on peut dire, cette cour des nations, mais pas vraiment profondément dans les cœurs le désir que les nations connaissent le Messie et le seul vrai Dieu. Alors c'est intéressant de voir ces histoires qu'on connaît bien vraiment dans le siège de la vie. Ici, vous voyez, nous sommes ici au coin nord-ouest. Sur ce rocher était la forteresse d'Antonia. Donc ici, il y avait des escaliers qui descendaient dans la cour des nations. Et c'est là où Paul a tenu ce discours magnifique, donnant son témoignage personnel. Est-ce que vous voyez ces trous là, dans le rocher? Est-ce qu'on voit? Alors, les poteaux du portique au nord étaient mis là-dedans. Et d'ailleurs, on a mesuré la hauteur. Et ça correspond exactement à ce qu'on a dans les récits historiques. Alors, nous avons une vue depuis la forteresse Antonia vers le portique à l'est. Voilà, c'est le portique de Salomon. Nous le connaissons des évangiles peut-être. Et Jean 10 nous dit, à la fête des dédicaces, Hanouka, c'est la fête où le temple a été de nouveau dédié à Dieu après que le roi Antiochus Épiphane avait rendu impur le temple au temps des Maccabées. Et depuis, on a chaque année, en décembre, on a fêté ce mémorial. Et le Seigneur était aussi à Hanouka. Donc une fête qui ne se trouve pas dans la loi, qui a été instituée plus tard. Le Seigneur en décembre au temple, il est froid, il fait froid, énormément froid. Alors, une froideur de glace dans la maison de Dieu, est-ce que c'est possible? Nous connaissons cela. Mais le Seigneur marche ici dans le portique de Salomon. C'est touchant, n'est-ce pas? Et alors, les conducteurs viennent vers lui et ils disent, maintenant, dis-nous si tu es le Messie ou pas. Alors il dit, vous n'êtes pas de mes brebis, vous n'écoutez de toute façon pas. Mes brebis, écoutez ma voix, et ils me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et nul les arrachera de ma main. Donc le Seigneur a annoncé la sécurité du salut dans le portique de Salomon, dans un temps de froideur, dans un temps où il faisait sombre, n'est-ce pas, décembre. C'est touchant. Et plus tard, après la crucifixion, la résurrection, après Pentecôte, les premiers chrétiens se sont rassemblés, les milliers se sont rassemblés ici dans le portique de Salomon. Et ils étaient ensemble d'un seul accord, un cœur, une âme. Alors là où le Seigneur avait annoncé la certitude du salut, c'est là où les premiers chrétiens étaient rassemblés. Vous voyez, l'église, le temple de Dieu, l'accomplissement dans le symbole. Et voilà, j'expliquerai cet après-midi, cette ligne de mur à l'est n'a jamais changé depuis Salomon. Et ça, on a agrandi au sud, à l'ouest et beaucoup au nord, mais jamais à l'est parce qu'il y a la vallée du Cédron qui descend profondément. On ne pouvait pas bouger. Alors, avec raison, on a appelé ça le portique de Salomon, parce que cette ligne de mur remonte à Salomon encore. Et Salomon veut dire l'homme de paix. C'est là où l'assemblée a commencé. Il connaissait la paix avec Dieu et la paix entre eux. Une seule âme, un seul cœur. Et la certitude du salut les a unis. Voilà, on considère cette image avec des yeux totalement différents. Ici se trouve l'origine du christianisme. Le portique de Salomon se trouvait là. Et vous voyez la porte de l'Est, où le bouc émissaire sortait, faisait partie de cette colonne. Un beau local d'assemblée, n'est-ce pas? Une longueur de 250 mètres, avec des plafonds de cèdre. Et vous voyez, juste à l'Est, le mont des Oliviers, où le Seigneur a donné le mandat de la mission mondiale, où il va revenir comme juge du monde. Alors vous voyez, c'est base de l'évangile qui devrait caractériser l'assemblée de Dieu, l'église de Dieu. Voilà. Nous allons avec l'avion au-dessus des cours intérieures. La cour des femmes, la cour d'Israël, et avec l'autel, la cour des sacrificateurs. N'est-ce pas, les femmes avaient le droit d'accéder dans la cour, dans cette cour. Mais pas plus loin, seulement s'ils apportaient un sacrifice. Alors ils entraient par cette porte, c'est la porte des femmes. Voilà Marie qui a apporté les sacrifices, Luc 2, elle est entrée ici pour offrir les colombes. Mais les hommes avaient le droit d'aller jusqu'à la cour d'Israël, mais pas plus loin. Seulement s'ils apportaient un sacrifice, ils avaient le droit d'entrer dans la cour des sacrificateurs. Il y a ici encore des petites cours dans les coins de la cour des femmes, et je ne peux pas expliquer tout, mais peut-être encore cette cour, c'est la chambre des lépreux. Donc, quand un lépreux était guéri, il devait apporter des sacrifices. Ou lorsque quelqu'un avait la lèpre, semble-t-il, il fallait l'examiner ici. Donc, lorsque le Seigneur a purifié les lépreux, il a dit, va au temple, montre-toi au sacrificateur et offre les sacrifices qu'il faut offrir. Alors, il les a envoyés ici. Ensuite, vous voyez le temple proprement dit. Vous voyez, la façade est tout large, et derrière, c'est serré. C'est pour ça qu'on appelait le temple proprement dit Ariel, lion de Dieu. Parce que le lion, il a une face très large, et derrière, c'est serré. Et ici, vous avez l'autel où on a offert les brebis. Voilà, Apocalypse 5, où Jean voit le Seigneur, donc la brebis immolée, et en même temps, il est appelé le lion de la tribu de Judas. Et vous voyez, donc, ce symbolisme, le brebis et le lion ensemble ici, ça provient d'ici, ce symbolisme. Voilà, dans la cour des femmes, il y avait une tribune avec 15 escaliers semi-circulaires. On les a construits selon les 15 psaumes des degrés, 120 jusqu'à 134. Et là, c'était le podium du chœur des sacrificateurs et de l'orchestre lévitique au temple. C'est une chose magnifique, vous voyez. Dans les synagogues, on chantait toujours sans instrument. Mais lorsque, pour les grandes fêtes, on est venu à Jérusalem, ici, on n'avait pas seulement l'accompagnement instrumental, mais on avait un chœur professionnel de sacrificateurs et un orchestre professionnel des lévites. Donc c'était des moments qui augmentaient l'émotion. Une chose merveilleuse chaque année de faire cette expérience. Alors là, on chantait les psaumes pendant les grandes fêtes. Et les dernières découvertes archéologiques ont mis au jour que ces escaliers ici se trouvent exactement sur cette ancienne structure où le cœur des sacrificateurs a chanté au temple. Et d'ailleurs, le Seigneur dit dans le psaume 22, « mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Et ensuite il dit, « toi qui habites parmi la louange d'Israël. » Donc le Seigneur était abandonné sur le calvaire, et il dit, « mais toi tu habites au temple. » Donc la présence de Dieu était à vivre au temple dans cette musique des sacrificateurs. On sonnait chaque jour, 7 fois, les trompettes d'argent au temple. Et les rabbins ont expliqué, ces trompettes annoncent le jugement final sur le monde dans la providence de Dieu. Et ils annoncent le royaume de Dieu. Et maintenant, nous allons vers l'Apocalypse et on trouve les jugements dans la providence de Dieu, les 7 trompettes. Vous voyez, tout est trouvé dans le monde des disciples à l'époque. Dans la cour des femmes, il y avait aussi des portiques, avec 13 caisses. Il y avait la forme d'une trompette. C'est pour ça qu'on les a appelées trompettes, chauffards. Chauffards, c'est une corne, par exemple, de bélier. Et le Seigneur dit, lorsque tu donnes des aumônes, tu ne trompetteras pas cela comme les hypocrites. Alors, tout en faisant une allusion à ces caisses, ces 13 caisses dans la cour des femmes. Mais le Seigneur, Marc 12, a aussi vu une veuve donnant 2 bits, donc l'éthion en grec. L'État, le pluriel, de l'État. Et c'était toute sa fortune. Alors pourquoi il a donné toute sa fortune? Est-ce qu'il ne savait pas calculer? Diviser par 2, donner la moitié de la fortune, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Mais il y avait une loi du temple à l'époque qui disait la plus petite somme pour le temple est 2 pits de l'État. Alors elle était devant le choix, soit donner tout ou soit donner rien. Elle s'est dit, je donne tout. Et je repose sur le Seigneur pour demain. Je me repose en le Seigneur. Je me confie en lui. N'est-ce pas? Ça me rappelle la pièce de 5 francs en Suisse. Sur le côté, il est écrit en latin, Dominus Providebit. Le Seigneur pourvoit. Vous voyez, la Suisse était une fois si chrétienne. Mais c'est exactement ça. Donc, dans les choses, l'argent se confie entièrement en le Seigneur. 2 Corinthiens 5 dit qu'il faut plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous et est ressuscité. Et cela, nous pouvons apprendre de cette veuve, une femme qui s'est donnée entièrement au Seigneur. Voilà, nous sommes dans la cour des femmes. C'était là la synagogue dans le temple, sous le ciel découvert. C'était là où le peuple se rassemblait pendant les grandes fêtes. Donc, ce n'était pas seulement les femmes, mais les hommes et les enfants, tous, qui avaient accès. Et pendant les grandes fêtes, les femmes étaient ici en haut, sur les balcons, donc ils avaient les meilleures places. Et il y avait là, au temple, 4 chandeliers, ou lampes, d'une hauteur de 25 mètres. Et on les allumait pendant la fête des tabernacles, et aussi pour Hanouka, en décembre. Chaque lampe était remplie de 9, un peu plus que 9 litres d'huile d'olive, et pour faire brûler, on utilisait les vêtements usés des sacrificateurs. Vous voyez, le recycling, c'est quelque chose qui est très ancien, et qui provient, semble-t-il, du judaïsme. Alors, la nuit, pendant les 7 jours de la fête des tabernacles, on a allumé ces lampes. Il faut dire, normalement, le service au temple se faisait seulement le jour. La nuit, il n'y avait pas de sacrifice, pas de fête. Mais pour la fête des tabernacles et Hanouka, c'était différent. Alors, on faisait une fête de 7 fois, 24 heures. Ceux qui voulaient dormir avaient le droit d'aller dans les tabernacles. Enfin, il fallait dormir dans les tabernacles. Mais les autres qui voulaient, ils pouvaient suivre le culte. Et pendant la nuit, on allumait les lampes les sacrificateurs et l'orchestre faisaient de la musique, et les anciens juges du Sanhédrin prenaient des torches et faisaient des danses. C'était une chose magnifique, n'est-ce pas? Lorsque les anciens frères commencent à danser, c'est hors du commun. Mais vous voyez, c'était d'une autre culture. Si on veut transposer, ça peut poser des problèmes, parce que nous sommes... Non, c'est vrai, parce que le judaïsme n'a pas pratiqué... Le judaïsme officiel n'a pas pratiqué le mysticisme et la transe et l'extase, parce que c'est absolument contre la parole. Mais notre société, si on veut aller plus loin que ce que nous sommes habitués, facilement, nous allons dans la direction de l'extase, qui est absolument contre la parole. Mais c'est effectivement, comme le Deutéronome le dit, tu te réjouiras seulement. Il fallait se réjouir complètement en le Seigneur pendant ces jours. Voilà, le Seigneur a la fête des tabernacles, Jean 7. Et Jean 8. On lui apporte une femme qui a été prise sur le fait même de l'adultère, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La belle fête à Jérusalem, et il était trop fatigué, il est allé dans le tabernacle, et pas dans la sienne. Et pendant cette belle fête à Jérusalem, il a détruit son mariage. Une catastrophe, n'est-ce pas? Tout apparaissait d'être heureux, fantastique. Vous voyez, quelques jours avant la fête des tabernacles, il y avait le jour du grand pardon, où chacun dans le peuple devait régler toutes les choses dans la vie personnelle, devant Dieu. Et alors, c'est pour ça que quelques jours après, Dieu dit, tu te réjouiras pendant cette fête, n'est-ce pas? S'il y en avait aussi, comme l'Église de Dieu, au moins un jour par an, où chacun doit régler tous les problèmes dans sa vie, alors nous aurons aussi une fête où on peut se réjouir complètement. Et voyez, derrière les façades, une femme qui détruit son mariage. Et le Seigneur s'occupe d'elle. Il dit, celui qui est sans péché, jette la première pierre. N'est-ce pas? Il ne voulait pas dire, en fait, nous sommes tous un peu la même chose, n'est-ce pas? Il ne voulait pas dire que tous auraient commis de l'adultère. Mais pourquoi ils ont seulement apporté la femme et pas l'homme? Donc ça montrait la partialité. Et vous voyez, qui était les premiers à sortir? C'était les plus intelligents, les anciens. Les anciens d'abord jusqu'au dernier. Donc les plus bêtes sortaient le dernier. Oui, effectivement. Et après le Seigneur était seul avec elle. Elle dit, ils t'ont condamné? Non. Alors le Seigneur dit, va et ne pêche plus jamais. Donc il lui donnait une chance à recommencer à zéro. Et le prochain verset, Jean 8, verset 12, le Seigneur dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Voilà, il explique les chandeliers qui ont brillé dans toute la nuit de Jérusalem. « Moi, je suis la lumière du monde. » On comprend beaucoup mieux. Si seulement cette photo reste de ce matin, c'est quelque chose de merveilleux. « Je suis la lumière du monde. » Voilà, nous sommes dans une société qui est caractérisée par les ténèbres parce qu'il ne sait plus à distinguer entre le bien et le mal. Et nous pouvons suivre le Seigneur, notre lumière. Voilà, nous sommes dans les cours au centre, la cour des hommes, la cour d'Israël et la cour des sacrificateurs. Et chaque jour, on a offert des sacrifices ici. Israël a appris jour après jour, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et sur cette base, on peut avoir la communion avec le Tout-Puissant. Alors, nous allons nous occuper un peu du temple proprement dit, mais pas du lieu très saint. J'en parlerai cet après-midi. Voyez l'entrée vers le temple proprement dit. Voyez le lieu saint avec l'autel d'or. L'holocauste continuel du matin était offert vers 9h le matin et du soir à 3h l'après-midi. Et seulement entre ces deux sacrifices, on a offert tous les autres sacrifices, les sacrifices personnels et autres. Donc, voyez les heures. À 9h, le Seigneur a été cloué à la croix. À 3h, il est mort. Voyez la providence de Dieu pour nous expliquer l'accomplissement dans le Seigneur. Et vous voyez, il y avait là à l'entrée une vigne d'or. C'était un cadeau de dédication pour le temple. Chacun qui voulait donner quelque chose au temple pouvait donner de l'argent et on a ajouté des raisins et des feuilles. C'est pour ça que cette vigne a grandi tout le temps. Et le Seigneur dit en Jean 15, « Moi, je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. » En Luc 21, et nous voyons comme le Seigneur, avec les disciples, a considéré les dents de dédication au temple. Ils ont regardé le cep d'or. Et là, nous apprenons ce que c'est le christianisme. C'est vivre dans une unité organique avec le Seigneur, vivante. N'est-ce pas? Les sarments ne peuvent pas produire des raisins s'ils ne sont pas dans une relation vivante avec le cep. Et ainsi on peut apporter du fruit pour le Père. Vous voyez, en détail encore, le cep. Comme ça nous apprenons les versets, je suis la porte des brebis, je suis la lumière du monde, je suis le vrai cep. Et voilà, en rapport avec le sacrifice continuel, le soir, les sacrificateurs devaient prononcer la bénédiction des prêtres, nombre 6. Le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur sur toi et te donne de la grâce, qui monte sa face sur toi et te donne de la paix. En hébreu, Yevarechcha Adonai veYishmerecha, Ya'er pana velecha vichunecha, Yissa pana velecha veYitenecha shalom. Mais cette bénédiction était toujours donnée en rapport avec le sacrifice. Donc Israël a compris la bénédiction de Dieu, qu'il nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous donne sa grâce, qu'il fasse luire sa face sur nous, qu'il nous donne la paix dans le cœur. C'est seulement possible sur la base du sacrifice. Voilà l'autel, la base de la communion avec Dieu. Voilà l'autel d'or, Luc 1, Zacharie au temple. Vous voyez, c'était la tâche la plus aimée des sacrificateurs de faire brûler de l'encens dans le temple. Parce que parmi les sacrificateurs, on disait à l'époque, celui qui peut accomplir cette tâche va recevoir une bénédiction particulière de Dieu. Et parce qu'il y avait des milliers de sacrificateurs à l'époque, c'est pour ça qu'on a tiré au sort. Et lorsqu'on a une fois reçu ce sort, on n'avait plus le droit de participer. Et voilà, Zacharie, comme un homme âgé, il tire le sort pour aller brûler de l'encens. Donc c'était une expérience de sa vie. Enfin, il peut y aller. Et voilà, deux autres sacrificateurs devaient préparer tout et après sortir. Il était tout seul dans la présence de l'Éternel. Donc, vous voyez, c'était un moment d'émotion particulière. Et d'un coup, il voit quelqu'un. Ani Gabriel, Shomed Lifnei Elohim. Je suis Gabriel, qui se tient devant l'Éternel, devant Dieu. Et il lui explique, vos prières sont exaucées. Tu recevras un fils. Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Alors, il a reçu une bénédiction particulière, mais il n'avait pas la force pour croire. C'est pour ça qu'il était muet pour plusieurs mois. Alors, lorsqu'il est sorti, il aurait dû donner, avec des autres sacrificateurs, la bénédiction des prêtres. C'était impossible à bénir parce qu'il n'a pas cru. Donc, nous apprenons, si nous ne croyons pas les promesses de Dieu, nous ne sommes incapables pour être une bénédiction aux autres. Je laisse le chandelier, ça vous connaissez de l'étude du tabernacle, parce qu'il faut finir dans quelques minutes. Voilà la table des fins des propositions, la présence de Dieu. Et maintenant pour finir, j'aimerais encore dire quelques mots quant à la construction du deuxième temple. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui réfléchissent sur le sujet de bâtir des églises. Alors, nous pouvons apprendre beaucoup par la manière comme on a bâti la maison de Dieu à l'époque. D'abord, les Romains, ils n'ont pas bâti, ils ont détruit le temple de Dieu. Et vous voyez, ils ont eu des armes lourdes à l'époque qui étaient absolument terribles. Alors, le contraire de construire, c'est de détruire. Et 1 Corinthiens 3, verset 16 dit, « Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Le verset qui suit, « Celui qui détruit le temple de Dieu est détruit par Dieu, sera détruit par Dieu. » Donc, quiconque détruit l'Église de Dieu subira un jugement de Dieu. C'est une chose solennelle. Détruire l'assemblée de Dieu demande le jugement de Dieu. Je ne dis pas pour un vrai croyant le jugement éternel, mais il y aura un jugement aussi terrestre pour de telles personnes. C'est solennel. Mais nous allons voir le côté positif. Au nord du temple, c'était plus élevé, il y avait une carrière. C'est là où on a pris les grandes pierres pour les descendre après sur le mont de Sion. Et voyez comment on en a fait. Dans la carrière, on a préparé les pierres, on a mis entre deux du bois, on a mis de l'eau dessus pour les faire exploser, pour les faire sortir. C'est le travail de l'évangélisation. Les hommes qui sont liés dans le péché doivent, par la prédication de la parole, ils doivent être délivrés des liens. Alors on a travaillé avec toutes les forces. La plus grande pierre qu'on a trouvée jusqu'à présent, dans le tunnel rabbinique, c'est le mur l'ouest du temple, c'est celle-ci. Voilà les deux garçons qui montrent le début et la fin. 13 mètres et demi de longueur, 3 mètres et demi de hauteur et 4 mètres et demi de largeur. Cette pierre pèse 578 tonnes. Les pierres des pyramides à Giza, au Caire, ils pèsent normalement 27 tonnes. Et vous voyez, cette pierre est déjà mise sur une première ligne de pierre. Comment c'était possible de faire ça? Ils sont arrivés à faire ça et vous voyez un peu les techniques qu'on avait utilisées à l'époque. Mais même sachant les techniques que vous voyez ici, on ne peut toujours pas comprendre comment c'était possible à mettre cette pierre. Elle est bien pesée. N'est-ce pas? Par exemple, par des cercles de maison, on peut gagner des incrédules pour l'évangile. Mais ensuite, il faut ce travail de les amener depuis la carrière pour les introduire dans une église, une assemblée locale. Et comment introduire des hommes si lourds? Et voilà, dans cette maquette, vous voyez cette pierre. À côté, il y a encore d'autres. Il y a aussi des plus petits. Vous voyez, il n'y a pas une église pour les hommes lourds, pour les gens faciles, pour les jeunes, pour les vieux, pour les policiers croyants, pour les étudiants et pour ceux qui font la moto. Non, ils sont tous mis ensemble en harmonie, comme le dit l'Épître aux Colossiens. C'est ça le but de Dieu. Il ne faut pas une harmonie de l'arrière-plan et de la manière de vivre. C'est ça le témoignage de Dieu, un temple à la gloire de Dieu, composé de pierres absolument différentes. J'ai encore deux à ajouter. Et nous allons finir. Voilà. Il y a quelques années, on a trouvé cet ossuaire. Un ossuaire, c'est une sorte de cercueil où on mettait les ossements de mort. Et voilà ce qu'on lit ici. Simon Banai Heichla, c'est un araméen. Simon, constructeur du temple. Tiens, on ne connaissait pas de l'histoire. Un Simon, constructeur du temple. Et maintenant, on a son cercueil. Donc, ce qu'on sait maintenant, c'était un homme qui a bâti à la maison de Dieu. Et nous ne savons pratiquement rien de sa vie. Alors je me suis dit, si tout est oublié une fois de notre vie, et si devant Dieu reste simplement cette phrase, Simon, constructeur du temple. Je me suis dit, ça serait merveilleux. Si ça ne reste pas, Simon qui a détruit le temple. Simon qui a construit le temple. Ça m'a beaucoup touché, cette pensée qui est venue. Et je finis avec cette photo. Voilà, le Seigneur a dit, moi je suis la lumière du monde. Mais il a aussi dit dans le discours sur la montagne, Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Voilà, le Seigneur est au ciel. Et comment le monde peut connaître le seul vrai Dieu et la seule offrande de Christ si ce n'est pas par la lumière de l'Église. Mais il faut travailler ensemble pour construire le temple à la gloire de Dieu. Et le but, c'est que cette lumière puisse briller dans une société dans les ténèbres, pour qu'ils connaissent le seul vrai Dieu, la seule vraie offrande, la communion intime avec Dieu. Et de cette communion intime, je parlerai cet après-midi, en rapport avec le mystère du rocher sur le mont de Sion, le lieu très saint.